1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Édition ce soir avec une bougie, puisque ce soir, c'est le premier anniversaire de votre rendez-vous du mardi soir, ce Grand Direct. Voilà, pour fêter ce soir tout cela, on vous propose 6 sujets avec nos chroniqueurs de ce soir. Et on va débuter cette émission avec Pauline et Gloria. Bonsoir.
Bonsoir.
Allons parler ensemble de mouvements masculinistes.
Oui, alors effectivement, on va vous parler de ces groupes qui luttent contre les droits des femmes.
Voilà. On en saura plus dans quelques instants, vous ne bougez pas. À 18h15, Fabio, bonsoir. Nous allons faire un tour au nord de la ville, direction le chemin de Roveréa, à la ferme pédagogique de Roveréa.
Oui, ferme pour laquelle la ville a choisi les nouveaux exploitants. Et nous recevrons tout à l'heure 2 membres de ce collectif qui va développer de l'agriculture biologique, mais aussi un volet sociopédagogique.
Voilà, on en saura plus dans un quart d'heure. À 18h25, nous passerons à la Rose des Vents. Ce soir, avec, comme chaque mois, le portrait d'Aline. Ce soir, c'est le portrait de Joël Conan, d'origine de Côte d'Ivoire. Il épouse une Suissesse et arrive donc logiquement en Suisse. Portrait à découvrir tout à l'heure. Et puis, parle-moi Suisse ce soir avec un nouveau Suisse, puisque Lucas a été naturalisé il y a tout juste quelques mois. Enfin, on passera à la culture dans Cultiver Lausanne et nous irons à la rencontre d'Enrico Camponovo, pianiste qui accompagne des films en direct. Il sera au micro et au clavier avec Stéphane. Enfin, pour conclure, comme chaque mardi, nous retrouverons les mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle. Le masculinisme, la ferme pédagogique de Roveréa, le portrait de Joël Conan, Parle-moi Suisse, rencontre d'Enrico Camponovo et les mardis de Stéphane Benanzi, c'est le menu de ce mardi 12 avril sur Radio Django, émission à suivre comme chaque mardi en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Alors, il y a quelques semaines, on vous parlait sur Radio Django de mouvement féministe avec Feminista. Aujourd'hui, on réagit et on parle de mouvement masculiniste. Avez-vous déjà entendu parler des masculinistes? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir comme question ce soir avec nos 2 invités. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Et bonsoir Gloria. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux membres du groupe Feminista de Lausanne et on va décortiquer ensemble ce mouvement masculiniste. Alors, qu'est-ce qu'on entend précisément par masculinisme?
Alors, le terme masculinisme a plusieurs significations. Il renvoie à une idéologie réactionnaire, à un contre-mouvement. Bon, il a d'abord été utilisé dans les années 90 par la philosophe Michel Ledeuf, dont on cite souvent la définition, puisque Michel Ledeuf caractérise le masculinisme comme une forme d'androcentrisme, c'est-à-dire que la société est envisagée par des hommes et en fonction de leur point de vue. Le masculinisme, c'est aussi un antiféminisme, puisque les groupes masculinistes prétendent que suite au mouvement féministe des années 70, les hommes souffriraient d'une prétendue crise d'identité et seraient discriminés. En ce sens, l'émergence des masculinismes s'ancre dans une période qu'on qualifie de ressac ou de retour de bâton, c'est-à-dire dans un contexte où les droits des femmes et l'idée d'inégalité entre hommes et femmes sont sans cesse remis en cause.
Alors, comment sont organisés ces mouvements masculinistes, Pauline?
Alors, c'est effectivement également un mouvement organisé, puisque au niveau national et international, des groupes se mobilisent autour de certaines revendications qui visent principalement à maintenir le pouvoir des hommes et à perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Bon, il faut savoir que le qualificatif masculiniste n'est pas nécessairement employé par les organisations qui revendiquent plutôt le fait de militer pour les droits des hommes ou la cause des hommes. Et certains, comme Yvon Dallaire, un psychologue masculiniste, se qualifient lui-même d'hoministe.
Et puis alors, quelles sont les fameuses revendications?
Alors, leurs axes de mobilisation sont variés, on peut en distinguer 5. En premier lieu, ils veulent réformer les lois sur le divorce pour instaurer la garde partagée comme un système dominant en cas de séparation ou divorce. En deuxième lieu, ils contestent l'ampleur des violences conjugales contre les femmes et l'ampleur des abus sexuels sur les enfants dans le cadre de la famille. En troisième lieu, ils stigmatisent les familles monoparentales en alertant autour d'un prétendu danger. Et en quatrième lieu, ils prétendent que la mixité a un impact négatif sur les résultats scolaires des garçons.
Et puis enfin, en cinquième lieu.
Eh bien, donc finalement, ils veulent aussi introduire le principe de codécision en matière de droit procréatif, c'est-à-dire que les hommes pourraient décider en cas d'avortement, par exemple.
Oui, effectivement. Alors la question des pères séparés semble centrale dans ces mobilisations, Gloria.
Effectivement, la plupart des groupes masculinistes se sont organisés en tant qu'association de pères séparés ou divorcés et ils prétendent être discriminés dans les tribunaux de la famille. Selon le documentaire Innomine Patris de Myriam Tonelotto et Mark Hansman diffusé sur Arte, les premières associations d'hommes divorcés se posant en victimes de femmes apparaissent aux États-Unis à la fin des années 50. Les masculinistes parlent de discriminations vécues par les hommes résultant des excès, entre guillemets, du féminisme, qu'ils appellent parfois féminazisme.
Ah oui, ils y vont fort. Quand est-ce que ces groupes masculinistes sont arrivés en Europe ?
Oui, un peu plus tard qu'aux États-Unis et au Canada, dans les années 1980-1990, le mouvement des pères séparés apparaît en Europe, notamment en Belgique avec le mouvement pour l'égalité parentale en 1982, SOS Papa en France en 1990 et Fathers for Justice en Grande-Bretagne au début des années 2000. En tout cas, ils ont eu bien plus de succès que les associations féministes qui luttent pour l'égalité des sexes et contre les violences.
Et puis, est-ce qu'il existe des groupes de ce type en Suisse ?
Oui, bien sûr. Des groupes pour les droits des hommes et en particulier la cause des pères existent aussi ici. Plusieurs associations comme le CROP, Coordination romande des organisations paternelles, ou l'association Père pour toujours de Genève en sont des exemples. Depuis quelques années, ces associations et d'autres mènent des actions dans l'espace public, comme celle de Père Noël Bleu, avec le slogan « Encore à Noël sans papa ». Leur tract présuppose que, concernant les droits de garde, les pères subiraient une discrimination dans les tribunaux de la famille. Selon eux, les juges seraient biaisés et favoriseraient les mères aux dépens des pères. Bref, on trouve en Suisse les mêmes arguments que dans d'autres pays. Bon, et puis, il existe des groupes organisés, mais aussi une rhétorique plus diffuse qui affirme que l'égalité entre hommes et femmes est non seulement acquise, mais que les hommes sont dorénavant désavantagés. Cette idée est très présente dans les médias, mais aussi dans certaines administrations suisses.
Effectivement, la question des gardes partagées est aussi centrale, non ? Quels intérêts trouvent les masculinistes dans les lois qui instaurent le système de garde partagée ?
Oui, nous pouvons en établir au moins 4. D'abord, un intérêt financier, car avec la garde partagée, le versement de la pension alimentaire tend à disparaître. Ainsi, selon Denise Côté, par exemple, sociologue québécoise, plus de 40% des mères interviewées dans sa dernière recherche sur la garde alternée admettent assumer la majorité des dépenses liées aux enfants. Elle en conclut donc que l'obligation de pourvoi se transférait plus rapidement aux mères que l'obligation de prise en charge des soins aux pères, et que les mères n'ont pas été dégagées pour autant de la responsabilité des soins. Deuxièmement, ils trouveraient un intérêt de contrôle sur l'ex-conjointe. En effet, le système de garde partagée fait que tout déménagement d'un des deux parents est soumis à l'autorisation de l'ex-conjoint. Cela pose de graves entraves aux mères victimes de violences conjugales et à la possibilité d'échapper à ces violences après la séparation. Ensuite, il semble avoir une volonté de museler les dénonciations pour violences conjugales. Les femmes qui dénoncent des actes de violence sont accusées de vouloir garder la maison et les enfants et de dépouiller les pères de tous ces droits, entre guillemets. Finalement, c'est une remise en cause du divorce même. Des études montrent que le taux de divorce diminue près de 4 fois plus dans les États à garde conjointe élevée aux États-Unis.
La question des violences conjugales, tant physiques que psychologiques, est aussi très présente, non ?
Oui. Une autre idée qui tend à s'imposer à l'heure actuelle et qui est portée par ces groupes masculinistes, c'est le fait que les hommes subiraient les violences conjugales autant que les femmes, mais que cette violence serait invisibilisée. Or, les données statistiques dont on dispose rappellent que les femmes subissent plus de violences que les hommes et que ces violences ont des conséquences plus graves.
Alors, si je comprends bien, si je suis bien ce que vous dites, on pourrait laisser penser que les femmes seraient plus gentilles et moins violentes que les hommes ?
Non, ça n'a rien à voir. Il s'agit de réaffirmer qu'il y a des inégalités et des rapports de domination entre hommes et femmes. Et la violence conjugale est l'une des conséquences de ces inégalités. A contrario, justement, les masculinistes cherchent à diaboliser le comportement des femmes en véhiculant des idées fausses. Et c'est notamment le cas avec le syndrome d'aliénation parentale, qui est très défendu par ces groupes et qui est un concept inventé pour contrer les déclarations de violence sur les enfants au cours des séparations. Donc selon ce concept, si un enfant ne souhaite pas voir un de ses parents, et souvent celui qui n'a pas la garde principale, donc souvent la mère, ce serait à cause de l'aliénation ou de la manipulation du parent gardien, donc la mère.
Et puis alors concrètement ?
Donc concrètement, l'idée est que les femmes manipuleraient les enfants pour qu'ils rejettent les pères. Or, ce concept n'a aucune base scientifique. Toutes les instances professionnelles, comme l'Organisation mondiale de la santé et d'autres associations de neuropsychiatres, rejettent ce concept. Pourtant, beaucoup de juges de la famille utilisent malheureusement, actuellement, dans plusieurs pays d'Europe, le concept du syndrome d'aliénation parentale. Il sert à cacher les violences physiques et sexuelles dans la famille.
Alors, en conclusion, Gloria et Pauline, il reste beaucoup à faire dans le domaine des inégalités entre les hommes et les femmes.
Effectivement, il reste beaucoup à faire, c'est pour ça qu'on est un féministe.
Et puis oui, effectivement, avec le masculinisme aussi. Merci beaucoup Pauline et Gloria d'être venues nous parler ce soir d'une partie de cette question de masculinisme versus féminisme. Une question, on l'a bien compris, compliquée et très riche. Vous êtes toutes les deux membres du groupe Féminista de Lausanne. Merci beaucoup. Une
Merci.
Chronique à
Merci.
Retrouver et à écouter sur notre site www.django.fm.
Sur le sable chaud, près de toi, je suis allongé. Le soleil est là-haut, commence à te décomposer. Je n'aurais pas dû te laisser 21 jours sans t'enterrer. Mais je pleurais trop, je n'arrivais pas à creuser. De ce quoi je ne suis pas fossoyeur de métier. Sur le sable chaud, près de toi, je suis allongé. Autour de toi, les mouches commencent à bourdonner. Je n'aurais pas dû te laisser 21 jours sans t'enterrer. J'aurais dû partir aussitôt. Ça m'est retourné. Quitter cette plage où mon bel amour s'est brisé. Sous le sable chaud, près de toi, je suis allongé. Mon joli rose vif, je vais partir sans t'enterrer. J'ai compris que ma fiancée ne viendrait plus pour pique-niquer. Avec mon rose, je suis malin, elle m'a posé, elle a peint. Sting, ding, dong, ding, dong, dong. Sting, ding, dong, dong.
Vous écoutez Radio Django avec quelques notes de musique à l'instant et on continue avec la ferme de Rovere. Ce soir, Fabio, on a le plaisir de continuer la discussion engagée de la semaine passée avec le journal Moins. On parlait de l'agriculture biologique notamment, puisque aujourd'hui on parle de la ferme de Rovere. Une exploitation agricole aux portes de Lausanne qui, en plus d'être un lieu de production agricole depuis 1988, ouais, ça fait quelques années déjà, elle propose des activités pédagogiques à travers l'accueil de classes lausannoises, les familiarisant ainsi avec le monde agricole notamment. Et ça tombe bien qu'on en parle puisque tout à l'heure, dans cette même salle ici à Pôle Sud, se tiendra une conférence autour de cette ferme.
Oui, donc cette ferme de Rovere, qui se situe, pour rappel, à la sortie de Lausanne sur la route de la Clé aux Moines et de Savigny, pour laquelle, suite au départ à la retraite de son dernier exploitant, la ville a lancé un appel à candidature pour s'occuper des 30 hectares agricoles dans le but, entre autres, de produire une agriculture biologique de proximité. Bonjour Élise Magnenin et Romain Chollet.
Bonjour.
Vous êtes deux membres du collectif de 6 personnes qui a remporté cet appel parmi 8 autres projets, enfin 8 projets en tout plutôt. Et vous avez donc été choisis par la ville pour être les nouvelles et nouveaux habitants de ce domaine de Rovere. Qu'est-ce qui a séduit la ville, à votre avis, dans le projet que vous avez présenté ?
Alors, je pense que la ville avait déjà un certain nombre d'exigences assez lourdes et puis qu'on y a... On leur a présenté la version qui répond à toutes leurs exigences, et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'ils ont apprécié. On a également répondu à une exigence un peu facultative autour de la réinsertion socio-professionnelle. Et ça, je sais que c'est aussi un des éléments qui a été clé dans la sélection de notre candidature. Et je pense que, d'une certaine manière, il y a aussi une forme de ténacité. Il y a certains membres du collectif qui sont, depuis 3-4 ans, sur l'affaire, parce que ça fait 64 ans qu'on sait que M. Chollet va partir à la retraite et qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et donc, nous, on a suivi un peu cette histoire et on a vraiment fait beaucoup de lobbying pour que le domaine reste agricole, pour qu'il passe en bio, etc. Et ça fait un moment qu'ils nous voient et qu'ils ont vu qu'on était vraiment intéressés par ce projet.
Romain, Élise parlait des exigences de la ville. Quand vous avez lu, quand tu as lu aussi ces exigences, est-ce que ça t'a paru être un peu dans le trend de...
Effectivement. Oui, bonjour. C'est un trend, comme tu dis, qui, selon nous, était effectivement justifié parce que la production bio, c'est pour nous quelque chose qui a une certaine valeur. C'est vrai que, en tout cas, au sein de notre collectif, c'est quelque chose auquel on est attaché.
Mais ça, c'était une exigence de la ville.
Ça, c'était une des exigences. Ouais. Et puis, les aspects liens sociaux, réinsertion professionnelle, pour nous, c'était quelque chose qui faisait sens dans un projet comme ça, puisqu'on a vraiment envie d'établir un peu à nouveau un trait d'union un petit peu entre la ville et la campagne. Donc, voilà, en deux mots...
Oui. Alors, Romain, toi, tu t'occupes plutôt du secteur... Enfin, vous êtes 6 personnes, mais vous partagez un certain nombre de
tâches, effectivement. Moi, je fais partie des agriculteurs.
Des agriculteurs, OK. Élise, toi, tu t'occupes plutôt de la partie socio-pédagogique.
Exact.
Tu nous expliques un peu davantage en quoi elle consiste?
Alors, ce qu'il existait effectivement déjà et ce à quoi la ville tenait beaucoup, c'était l'accueil de classe que Madame Chollet faisait jusqu'à aujourd'hui. Et puis nous, on a dit, oui, pourquoi pas de l'accueil de classe, mais on ne veut pas s'arrêter là.
Donc, c'est une ferme qui est extrêmement connue.
Presque tous les Lausannois y ont passé.
Et la région.
Et de la région aussi.
Oui. Ouais, ouais. Donc ça, on a dit oui avec plaisir, mais on voulait pas s'arrêter là. Donc là, on a entrepris une démarche pour parler aussi aux maisons de quartier, aux habitants voisins, aux Lausannois en général. Et puis aussi, on est intéressé par tout ce qui est intergénérationnel, donc aussi de l'accueil d'adultes, des activités pour les familles, etc. Donc ça, c'est l'aspect pédagogique. Et l'aspect social, c'est vraiment l'idée que toutes les différentes activités de la ferme, que ce soit agricole, commerciale, pédagogique, soient proposent des places de réinsertion pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc soit qui sont aux revenus d'insertion, qui sont à l'AI. Enfin voilà, c'est vraiment...
En lien avec les services sociaux de la ville?
Oui, en lien avec les services sociaux de la ville
et ça va rester...
Et du canton. Oui, parce qu'on travaille, un des membres du collectif a une coopérative qui a déjà des mesures d'insertion au niveau cantonal et qui va pouvoir placer des gens tout de suite. Parce que c'est tout un processus de pouvoir accueillir des gens et d'avoir des conventions avec l'AI et le revenu d'insertion.
Mais l'idée à terme serait d'avoir nos propres conventions, mais effectivement, comme elle a dit, ça prend du temps.
Romain, c'est 30 hectares. Bon.
Oui, 24,7.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y.
Qu'est-ce qu'on fait sur 250 000 m2? Ouais, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, effectivement, nous, notre démarche, elle est un petit peu progressive parce qu'on est quand même conscient que c'était historiquement de la polyculture, élevage. Donc, il y avait des vaches, il y avait même un temps des vaches laitières. Et puis, des grandes cultures, maïs, colza, céréales. Et effectivement, le souhait de la ville et puis notre souhait à nous, c'était d'intégrer une production maraîchère. Alors effectivement, on va y aller progressivement. On va commencer par 1 hectare, donc 10 000 m2 de production de légumes. Et sur le reste des surfaces, on va proposer des céréales qui seront faites par nos soins, probablement aussi par des agriculteurs tiers de la région qu'on connaît aussi un petit peu. Et puis voilà, progressivement, on va un petit peu augmenter les surfaces de légumes jusqu'à 3 voire 4 hectares, mais pas plus. Et puis le reste sera assolé en engrais vert, comme on dit, donc des céréales, des engrais verts et puis des prairies naturelles. Enfin,
est-ce que vous prévoyez vendre ce que vous allez produire?
Oui, on prévoit vendre, on prévoit de vendre. À terme, à la restauration collective, aux crèches de Lausanne. Ça, c'était aussi un souhait de la ville, pas une exigence, mais un souhait. Et puis, on imagine très probablement avoir ce qu'on appelle de l'ACP, de l'agriculture contractuelle de proximité, donc un système de panier et d'autres canaux de distribution aux régions, enfin aux quartiers voisins, et puis de la vente directe.
Sur place,
c'est ça. Donc c'est un lieu relativement fréquenté, mais pour l'instant, effectivement, les gens n'ont pas l'habitude d'aller chercher encore leurs légumes à Revers.
Est-ce qu'il y a des animaux sur place?
Alors actuellement, il y a les animaux du SPADOM, donc du service parc et domaine de la ville de Lausanne. Les animaux qui sont... Alors, il y a des moutons, il y a des cochons laineux, il y a quoi d'autre ?
Il s'agit des moutons tondeurs qui sont à travers toute la ville, et puis les cochons laineux qui sont à Sauvable, en fait. Une partie du troupeau est à Reveréa.
Ouais.
Puis il y a des poules et des lapins qui sont pas au Spadon, mais qui sont aussi sur place.
Vous êtes amené, le collectif que vous êtes sera amené à s'occuper aussi de...
Non,
de
alors l'idée, c'est que le Spadon s'occupe de ces animaux. Et puis effectivement, nous, on va probablement avoir un peu plus de poules et pour faire des œufs. Comme l'idée, c'est d'avoir un marché à la ferme et un café paysan, on aura des œufs pour le café, etc.
Enfin, et préparer les omelettes.
Vous en êtes où maintenant? Vous y habitez déjà? Tout est prêt?
Alors moi, je vais y habiter dès le 1er juin.
Oui.
Officieusement, on a le droit de superficie, comme on l'appelle, que nous octroie la ville à partir de juillet, si tout se passe bien, on l'espère. Et puis, effectivement, les activités, alors en permaculture, parce que vous le savez peut-être, on a une sorte de petite convention pour exploiter une petite parcelle, un jardin historique cette année, mais disons que la production maraîchère en tant que telle, biologique, sur des grandes surfaces, on va dire, en tout cas un petit peu plus professionnelles, commenceront à partir du printemps prochain.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et puis il y aura quelques semis qui seront faits de céréales à la fin de cette année. Donc effectivement, nous on a les terres, on peut les cultiver à partir de septembre de cette année.
Mais Élise, toi, tu as déjà des choses dans le panier, enfin des activités qui vont démarrer rapidement.
Ouais. Alors effectivement, donc on s'est mis d'accord avec le couple Cholet qui est actuellement sur la ferme. Ils nous ont dit on va pas cultiver le potager historique, le potager des fermiers. Et nous, c'était le lieu où on voulait créer le potager pédagogique. Donc on s'est dit, OK, c'est parti, on y va. On démarre le potager pédagogique. Ce sera une vitrine du projet. Et on le fait en intelligence collective et en démarche participative. Donc on a créé le design du jardin en permaculture avec l'association des étudiants de l'APEL, l'association permaculture estudiantine Lausanne. On a fait une soirée de présentation au public pour impliquer les gens dans ce design. Et là, on fait 3 jours de chantier participatif en avril et 2 jours en juin pour mettre en place ça avec les gens du quartier, les habitants de la ville et même bien plus loin, parce qu'on a même des gens qui viennent de Fribourg, de France voisine et de Genève.
Comme quoi, elle est vraiment connue loin.
Et vous avez déjà beaucoup d'inscriptions ?
Alors, on a été un peu pris d'assaut, c'était un peu inattendu. On a eu 130 inscriptions en 3 jours, là on en est à 170. On va faire ça pour que ça soit raisonnable, on va accueillir 40 personnes par demi-journée et on va bientôt fermer les inscriptions.
Puis vous avez assez de pelles et de gants et de...
Non, alors non, on va demander aux gens de venir avec leurs pelles, leurs gants. Si vous avez des gants à donner, des pelles, n'hésitez pas. On est effectivement un peu victime de notre succès, mais on cherche du matériel, on cherche des compétences, on va chercher des fonds d'ici ces prochains mois. Si ça parle à certains auditeurs, c'est très volontiers.
Romain, on termine avec ça, une question à brûle pour point. Une ferme qui cultive les gens aux portes de Lausanne. C'est un joli slogan, ça.
C'est un joli slogan. Effectivement, de nos jours, on a l'impression que ça pousse assez bien, les gens. En tout cas, il y a un engouement qui a l'air certain. On était un petit peu... Moi, je parle personnellement, mais j'étais quand même assez étonné parce que moi, c'est une thématique, l'agriculture, qui me tient à cœur. Mais j'ai souvent eu l'impression que j'étais une sorte d'extraterrestre là-dedans. Et visiblement, je ne sais pas si c'est une question générationnelle ou quoi, mais je crois que les gens ont vraiment envie de, voilà, comme je le disais, comme je me répète, retisser des liens sociaux, plus au clair, disons, avec ce qu'ils mangent, établir des liens avec les agriculteurs, pouvoir être sur un site avec une belle échappée paysagère, pouvoir montrer à ses enfants les animaux qu'il y a. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Je crois qui est prometteur, qui est porteur. Ouais.
Et puis qui souscrit à la permaculture, qui ne s'occupe pas seulement de produire dans de bonnes conditions, mais qui s'occupe aussi de la vie des gens qui le font.
Exactement.
Et qui en profitent aussi.
Exactement.
Oui.
Eh bien voilà, on vous souhaite plein succès en tout cas pour ce magnifique projet.
Merci.
Merci beaucoup Élise Magnena et Romain Chollet, membres du collectif de la ferme agroécologique de Roveréa à Lausanne. On vous rappelle le site sur lequel on retrouve toutes les informations concernant la ferme, mais également les prochaines activités, www.roveréa.ch. Et puis sur le site, vous pouvez également retrouver la fameuse liste des outillages de jardin qui sont encore recherchés, avec également du matériel de construction. Enfin tout ça, toutes les informations sur www.roveréa.ch. On vous met le lien également sur notre site django.fm. Et puis, je vous rappelle aussi la conférence de tout à l'heure à 19h30 sur la ferme de Roveréa, organisée par la PEL, l'Association Permaculturelle et Studentine de Lausanne. Et elle aura lieu ici, donc à 19h30, dans la salle de Pôle Sud. Merci beaucoup, Fabio, pour la préparation de ce sujet. Et à bientôt. 1, 2, 3, 4.
Radio Django, la rose des vents.
Ce mardi, c'est le portrait du mois et c'est celui d'un homme né en Côte d'Ivoire. Joël Conan a étudié et voyagé en Afrique et en Europe avant de rencontrer sa future épouse, une Suissesse, et c'était au Mali. Il vit aujourd'hui à Lausanne depuis presque 30 ans et travaille comme éducateur spécialisé auprès de jeunes en rupture. De par son histoire et sa migration, il porte un regard riche sur les jeunes migrants avec qui il travaille et ouvre de nouvelles pistes de réflexion, notamment dans son livre « Éprouver mais pas achever ». Quelle histoire, quelle vie. Un titre qui vient de paraître aux éditions Jet d'encre. Au micro d'Aline, il nous parle de ses racines et de son intégration en commençant par sa définition de l'identité.
Qui suis-je ? Je suis ce que je dégage au quotidien dans mon caractère, de par le timbre de ma voix. Quand on m'appelle par un prénom, celui-là, je réponds le nom de famille qui va encore identifier ce que je suis. Ce que je suis est aussi un lieu où je suis né, un environnement social, c'est aussi un état de groupe, un clan, une tribu, d'où la définition de la nation qui regroupe ces éléments-là. Je suis ivoirien parce que je suis originaire de Côte d'Ivoire. Mon identité ne peut pas ne pas se rattacher à l'histoire de ma famille, de mon père, de ma mère, de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs aïeux.
On dit bien Joël Conan, on ne dit pas Joël Conan.
En France, ils disent Conan, en Suisse, on m'a toujours appelé Conan.
D'accord.
Alors, je ne suis pas contre l'un ni contre l'autre, ou pour l'un ou pour l'autre.
Comment est-ce qu'on dit en Côte d'Ivoire ?
Conan.
Oui.
D'accord. C'est pour ça que les Français disent Conan, parce que c'est eux qui nous ont colonisés. Okay.
Mais est-ce que Conan, ça veut dire quelque chose ou pas ?
Ça a une signification toute simple. Mon père étant né un mercredi, son père pareil, donc le nom Conan est resté dans la lignée.
Donc Conan, ça veut dire mercredi ?
Oui.
En quelle langue ?
Le baoulé. Le baoulé, ça signifie l'enfant est mort. Alors là, c'est toute une autre histoire, si vous voulez entendre. D'après la légende, les baoulés du groupe Akan de Côte d'Ivoire sont partis du Ghana parce qu'ils étaient des gens un petit peu riches et puis ils étaient enviés par un autre groupe ethnique. Donc à l'époque, ils nous ont chassés. Et donc avant d'arriver en Côte d'Ivoire, l'ennemi étant derrière, d'après la légende, il y avait un fleuve qu'on ne pouvait pas traverser. Et donc le fleuve leur réclamait un sacrifice d'un enfant. Et tous les couples qui avaient des bébés se sont éloignés. Seule une dame sans mari a accepté d'offrir son enfant à l'eau. Donc, elle a jeté son enfant dans l'eau. L'histoire nous dit qu'une fois l'enfant a disparu, est survenu en surface de l'eau des centaines d'hippopotames qui se sont mis tout le long de la traversée et le peuple a marché pour aller de l'autre côté de la rive. Et une fois l'ennemi arrivé, les hippopotames ont disparu. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous entendez parler de la reine Abla Poku, c'est la reine des Akans. C'est pour ça qu'elle est devenue reine de ce peuple-là, parce qu'elle fut la seule qui a offert son fils, qui a choisi d'offrir son fils en sacrifice pour pouvoir passer le fleuve. Donc Baouli, définition littérale, l'enfant est mort. Donc je suis issu d'un peuple d'où l'enfant était mort pour pouvoir vivre.
Je suis le descendant de Fakoli. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Alléluia.
Je suis né ivoirien dans le cocon familial. J'ai grandi jusqu'à un certain âge. Je me suis dit, je vais me débrouiller ailleurs. Je suis parti. Je suis arrivé en Europe. Je me suis établi. Je ne suis pas européen. Je le suis par adoption. Et puis, je parle avec ma sœur hier soir au téléphone et je m'aperçois que je suis décalé, par exemple, sur des détails. Je me dis, tu ne comprends pas tout, Joël, parce que ça fait longtemps que tu es loin de chez toi. J'ai appris à rentrer dans une forme synthétique des choses.
Comme vous dites, vous avez appris une autre manière de parler.
Du moins, je me suis adapté à la façon de vivre d'ici. Quelques éléments que j'ai évoqués dans le livre, à savoir la pensée rationnelle occidentale et la pensée symbolique africaine ou orientale. Parce que chez moi, quand on explique quelque chose, on l'explique pas en allant tout droit dans la réalité, mais tout en prenant des symboles pour représenter ce que l'on veut dire avant d'arriver à la réalité. Ici, quand on explique quelque chose, on a besoin d'être synthétique, d'aller droit au but.
Alléluia.
En parlant tout à l'heure du déracinement, je me suis permis de travailler sur la métaphore de l'arbre parce que c'est l'élément qui se rapproche, dans mon optique à moi, le mieux de l'être humain. J'ai travaillé ces aspects avec un ami qui a pris sa retraite mais qui travaille au jardin botanique pour essayer de confronter la valeur de la plante et celle de l'humain et les mouvements en termes de développement, parce que la plante, je ne savais pas que la plante avait une adolescence. Quand il m'explique, j'ai dit, mais voilà ce que je vis en éducation dans l'adolescence de l'enfant. Je me suis permis de creuser plus le côté de l'arbre pour ne plus prendre l'histoire de mes proches, parce que connaissant la personne, ça me touchait tellement que je ne pouvais pas ne pas pleurer. Et donc, en parlant de l'arbre, je peux parler de l'autre sans parler de lui, et l'autre se retrouve sans pour autant se sentir jugé.
Vous utilisez la métaphore de l'arbre avec les adolescents que vous suivez.
Aussi. D'ailleurs, ma première image, je l'ai dessinée au travail. J'étais en permanence, c'était une période de Noël, il n'y avait qu'un seul gamin et puis il dormait, donc je dessinais. Lorsqu'il s'est réveillé, qu'il est rentré dans le bureau, il me dit, mais c'est quoi ces machins, ces schémas bizarres? Puis je me suis dit, je vais voir s'il comprend. Donc je prends le stylo et puis je dessine encore et puis je lui donne l'explication pourquoi j'en suis arrivé à ces machins bizarres. Et une fois fini, il me regarde et il me dit, mais pourquoi tu racontes mon histoire? Et c'est à ce moment que je me suis dit, ça marche. Un enfant de 15 ans entend le sens et comprend le sens. Et je lui dis, mais est-ce que tu m'as déjà raconté ton histoire? Il m'a dit non. Et il dit, maintenant je te la raconte. Voilà, ça ressemble à ça et ça et ça. Mais si jamais tu mets dans un bouquin, je dépose plainte contre toi. C'était joli comme il l'a présenté. Mais ça m'a instruit, ça m'a permis. Et c'est grâce à ça que j'ai été très loin. Parce que je me dis, si un enfant de 15 ans comprend, je souhaiterais que des adultes de tout âge comprennent. Alors, cet outil va être un élément essentiel qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir, un jour ou l'autre, en faire usage dans leur pratique professionnelle. Donc, on nous apporte les enfants dans les institutions en nous demandant de les traiter ici. Donc, on nous demande de traiter les feuilles, les branches et les fruits, parce que c'est ce qu'on voit.
On ne fait pas attention aux troncs et aux racines.
Alors que là se trouvent les choses les plus sensibles. Quand les racines de l'autre que vous voyez ici viennent rejoindre l'autre plante qui est en face, imaginons que cette plante était en train de mourir. Parce que ses racines l'ont touchée, les sèves de cette plante-là vont pénétrer dans l'autre et lui redonner une vie. Ils vont modifier systématiquement la texture, le goût, etc. Y compris même des branches et des feuilles. Ainsi, le comportement ici va être modifié. Vous m'aviez posé la question sur mon intégration ici. Elle est modifiée, mon intégration, parce que vos sèves ont touché mes racines et m'ont alimenté. Grâce à ces sèves d'ici, je survis ou je vis. Mais je vis pas comme si j'étais resté en Côte d'Ivoire. Je vis d'une façon modifiée. c'est important de pouvoir voir la migration beaucoup plus large. Une chose, c'est d'ouvrir la porte. Mais l'autre chose, c'est d'ouvrir les yeux. Parce que si j'accueille que je n'ouvre pas les yeux pour prendre soin, comme les arbres nous ont démontré en allant avec leurs racines pour donner vie, nous allons voir des êtres, des gens qui existent, mais qui ne vivent pas. Je fais exprès pour poser ça, parce que la vie, pour moi, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est dans l'échange, comme on l'a vu entre l'eau qui vient du ciel, qui descend sur la terre, desséchée, qui crée, permet la fécondation. Ainsi, on doit pouvoir accueillir. En contrepartie, en tant que migrant moi-même, je fais des efforts, j'ai fourni des efforts pour pouvoir satisfaire ceux qui m'ont accueilli, sachant que je suis dans une imperfection continue.
Et c'est tout ça qui forme une population merveilleuse. Alors, unité,
je crois pas que j'arriverai à vous définir, du coup.
Moi-même, je n'arriverai pas parce que je suis en évolution permanente. Et chaque jour, je me découvre dans un autre élément. Ouais. Autrement, je ne serais plus moi. Ce serait « Il était une fois Joël » et maintenant. Mais parce que je suis un être qui évolue, je ne me limite pas dans ce que je suis représenté aujourd'hui. Parce que je crois qu'il va changer la seconde qui suit. Après l'interview, je vais peut-être faire la panosse. C'est quelqu'un d'autre.
Joël Conan au micro d'Aline, rencontre à retrouver, accompagnée du portrait écrit de Joël, paru dans l'événement syndical il y a quelques jours. Tout ça sur notre site internet www.django.fm. On vous met aussi les références de ses livres, tout ça sur notre site. Merci Aline.
J'étais plus glissant que l'onde. Hier j'étais le roi du monde. Ma bouche était pleine et féconde. Aujourd'hui, rien. Si je claironne, je ne soupçonne en vérité rien que bien. Le soir venu, les angoisses reviennent. Je te le dis. Choix qui me tire vers le bas me répondent par des mots d'estomac. Mauvaise raison, mauvais choix qui défile devant moi me confondent et me laissent devant toi. Hier j'étais le seul au monde, je ne regardais que mon nom. Le monde, hier j'étais bien seul au monde, aujourd'hui rien. Si je t'appelle, je ne décèle à ton sujet rien de bien. Le soir tombé, le doute s'insinue entre toi et moi pour branler. Mauvais choix qui me tire vers le bas me répondent par des mots d'estomac. Mauvaise raison, mauvais choix qui défile devant moi me confondent et me laissent en toi. La nuit est pleine et je vois les possibles rêves. La nuit est pleine et je...
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Ce soir, c'est aussi ta chronique, celle de Laure, Parle-moi Suisse, une chronique qui explore notre identité à travers les cinq sens. Bonsoir Laure, qui est l'invitée de cette semaine ?
Salut Fabien. Alors ce mois-ci, puis pour varier un peu les plaisirs, j'ai choisi d'interroger Luca. Pourquoi Luca ? Parce que en fait, c'est un jeune naturalisé. Il a 32 ans et il est né en Suisse, mais avec un passeport italien. Et c'est qu'il y a quelques mois qu'il a décidé de faire les démarches pour obtenir le fameux passeport rouge à croix blanche.
Alors effectivement, c'est intéressant. Est-ce que d'avoir grandi en tant qu'Italien en Suisse change sa perception du pays ?
Bon, a priori, non. Comme chacun des Suisses purs sucs que j'ai pu interroger jusqu'ici, Luca perçoit la Suisse à sa manière. Alors tantôt avec amour, tantôt avec un peu de critique. Puis après, en réécoutant, je me suis quand même dit qu'il y avait un chouïa plus de patriotisme peut-être dans ses réponses, et notamment quand il parle du réconfort que lui apporte sa mère patrie. La première source de réconfort qu'il évoque, elle est visuelle, et je te laisse l'écouter.
Les panneaux suisses, pour moi, l'image que je retiens, avec des flèches qui sont bien larges, bien veillantes, on a l'impression que quelqu'un nous dit « fais attention sur la route ». Quand je passe la frontière en direction de la Suisse, je me sens chez moi. Et donc, c'est aussi ce genre de sentiment qui m'a poussé à me naturaliser. Donc, chaque fois que je passe cette frontière, je me rends compte que je suis comme soulagé. Et inversement, quand on la passe dans l'autre sens, il y a toujours une forme d'angoisse, même quand c'est juste pour faire quelques courses en France.
Il y a ?
Je sais pas. C'est un environnement qui peut paraître plus hostile, je trouve.
Parce qu'il n'y a plus les panneaux suisses.
Exactement. C'est un tout, mais que je résumerais peut-être dans les panneaux suisses. C'est vrai que les routes suisses sont faites pour nous accueillir, comme si on nous disait « fais attention, mais nous on est là pour te protéger ». De l'autre côté de la frontière, on est un peu lâché dans une sorte de jungle que nous, petits Suisses bichonnés, on n'a pas l'habitude de vivre.
Est-ce que tu as des odeurs, du coup, qui te provoquent un peu ce même genre de réconfort ou de sensation de chez toi ?
Moi, je retrouve des odeurs particulières dans les boucheries. En fait, je pense qu'il n'y a pas deux pays qui ont les mêmes odeurs. Et puis, en fait, en Suisse, quand on rentre dans une boucherie, bah, on sent le lard, on sent les saucisses fumées, on sent les salaisons, on sent ce qu'aiment les Suisses qui mangent. Et je trouve qu'on retrouve une odeur commune dans les boucheries suisses qu'on ne retrouve pas à l'étranger. Et une odeur plutôt agréable.
Vous pouvez trouver toutes sortes de produits. Vous partez du produit frais, de la tranche, au produit fabriqué, au produit transformé. Donc la saucisse, le saucisson, toutes ces choses-là. Ou alors encore les articles traiteurs.
Les gares aussi, elles ont une odeur vraiment particulière. Les gares suisses. Ouais, les gares suisses, elles ont une odeur unique. Je ne sais pas, c'est une odeur un peu métallique qui se mélange au ballast. Il y a vraiment une odeur qu'on retrouve dans toutes les gares suisses que j'ai jamais retrouvée ailleurs.
Et au niveau des sons, des musiques, quand est-ce que tu te sens en Suisse ?
J'ai dans la tête les souvenirs de pubs pour les médicaments sur la TSR. Et à la fin de ces pubs, on disait toujours « lisez bien la notice d'emballage ». Et c'était la manière de dire l'emballage qui m'a toujours marqué, ça montrait un peu l'amateurisme qu'il y avait dans ces pubs. En même temps, c'était des groupes pharma qui gèrent des milliards, qui nous les vendent, mais ils arrivent à se substituer à la pharmacienne en faisant croire qu'il y a de l'amateurisme. Et donc il y avait cette voix à la fin, chaque fois, qui nous rappelait qu'il fallait bien lire la notice d'emballage, en appuyant bien sur le terme emballage. Et puis cette manière de le dire, je crois que je l'oublierai jamais.
Calme tout grâce est aussi disponible pour adultes. Ce sont des médicaments. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice
d'emballage.
Est-ce que, pour le toucher, t'as pensé à quelque chose de particulier ?
Il y a un sentiment que j'aime bien, c'est celui au printemps, quand pour la première fois, on plonge les pieds dans le lac. On se balade au bord du lac, c'est le printemps, il fait encore un peu frais, mais il y a du soleil, alors on enlève les chaussettes, on met les pieds dans l'eau froide et puis... On sent que bientôt ce sera l'été, l'eau elle est encore beaucoup trop froide pour se baigner, mais il y a quelque chose qui arrive et puis c'est toujours une belle sensation.
Un duc, on est heureux quand on trempe ses pieds dans l'eau bleue.
Tous les soucis s'évanouissent
lorsqu'on est dans l'eau du Danube.
Un goût suisse pour toi?
Pour moi, c'est lié à un souvenir d'enfance en fait. J'aimais bien les bonbons avec une poudre pétillante à l'intérieur. Donc c'est là, on avait d'abord un goût fruité, puis ensuite, une fois qu'on avait bien sucé le bonbon, on arrivait à une poudre qui fait pleurer. Donc on se retrouvait avec des larmes aux yeux.
Soucoupes de pimous, ça pique pas?
Ça arrache!
Et puis c'est des bonbons qu'on avait le droit de manger uniquement en course d'école. Donc, c'était des moments assez inoubliables. J'ai vraiment un bon souvenir de ces pique-niques. Le pain au lait avec le parfait, c'était le mini-pic, les flips, c'était les chips à la cacahuète.
Mais comme beaucoup, c'est les goûts de l'enfance.
Ouais, c'est les goûts de l'enfance. Et s'il faut parler un peu des goûts de l'âge adulte, voilà, partageant aujourd'hui ma vie avec une Suisse, c'est vrai que je découvre certains autres produits. J'ai pris l'habitude de manger par exemple du Bircher. C'est très suisse et c'est un goût unique et vraiment qui me fait sentir bien. J'ai découvert aussi des produits valaisans, des viandes séchées, des confitures d'abricots maison. C'est pas des choses que je connaissais pas, mais c'est des choses qui sont vraiment rentrées dans ma vie et qu'aujourd'hui je veux plus laisser sortir.
Merci Laure, on retrouve Parle-moi Suisse le mois prochain.
Radio Django Culture.
Il vous est peut-être déjà arrivé d'assister à une projection d'un film muet accompagné en live par un pianiste et vous vous êtes tous et toujours demandé quelle préparation une telle prestation nécessite. Eh bien, vous avez de la chance car notre chroniqueur Stéphane est justement parti questionner Enrico Camponovo, le pianiste bien connu des habitués de la Cinémathèque suisse à ce sujet et sur plein d'autres sujets encore. En outre, cette conversation autour de l'art de l'accompagnement et de ses codes, de son histoire est ponctuée d'exemples sonores exclusivement enregistrés en direct sur le piano de Pôle Sud.
Me voilà en compagnie d'Enrico Camponovo, pianiste éclectique qui, en plus d'occuper diverses fonctions au conservatoire et à l'EMU, dont celle de professeur, met aussi régulièrement en musique depuis 15 ans maintenant les films muets projetés à la Cinémathèque suisse. Il a eu la gentillesse de bien vouloir venir ce soir au micro de Radio Django pour nous parler de sa pratique de l'accompagnement. Bonsoir Enrico.
Bonsoir.
Pour commencer, j'aimerais savoir de quelle manière tu te prépares pour accompagner un film muet. Le vois-tu plusieurs fois avant? Prends-tu des notes?
En principe, la Cinémathèque me fournit un DVD, disons 2, 3, 4 semaines à l'avance. Et effectivement, je le regarde minimum 3, si ce n'est pas 4 fois. Certains passages, disons compliqués, problématiques, où il faut absolument que ma musique soit synchrone avec une image particulière, comme un coup de canon ou alors quelqu'un qui tombe d'un coup, une scène d'action par exemple. Alors dans ces cas-là, je me repasse la scène plusieurs fois pour bien mémoriser à quel moment justement telle ou telle chose arrive. Il est arrivé quelquefois que je puisse regarder le film seulement la veille, voire le matin même, parce qu'effectivement, pas tous les films projetés à la Cinémathèque, disons, sont propriétés de la Cinémathèque. Quelquefois, ils projettent des films qui viennent d'autres cinémathèques. Disons, en 15 ans, il m'est arrivé quand même une seule fois de devoir accompagner un film en public sans l'avoir jamais vu. C'est assez difficile, mais bon, je m'étais quand même préparé en allant regarder sur Internet le synopsis, c'est-à-dire la trame du film. Donc, je savais déjà à peu près ce qui allait se passer, mais je ne savais pas quand, comment et pourquoi, mais je savais les personnages. Donc je savais quel personnage était méchant, quel autre personnage était sympathique, quel autre allait faire l'héros. Et donc je m'étais préparé, mais sans avoir jamais vu vraiment le film.
Qu'est-ce que ça implique pour toi de savoir les personnages?
Alors justement, ça implique beaucoup, voire même, c'est, je dirais, la base. Pour la seule raison que j'essaye d'accompagner les films muets comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire il y a 100 ans. Et à l'époque, les pianistes choisissaient un thème, ce que les Allemands parlent de leitmotiv, c'est-à-dire un thème conducteur, une mélodie en quelque sorte, pour chaque personnage. Et c'était une mélodie qui collait à la peau du personnage. Et chaque fois qu'on le voyait à l'écran, on était censé, ou presque chaque fois, on était censé reproduire ce thème pour que les gens le reconnaissent et pour donner aussi une unité globale à la musique qu'on faisait. Parce qu'à l'époque, on improvisait. Le risque avec l'improvisation, c'est de partir un peu n'importe où et donc d'avoir une musique qui n'a aucune cohérence, c'est-à-dire 90 minutes de musique, chaque fois différente, sans aucune cohésion interne. Et les thèmes conducteurs, les thèmes des personnages permettaient justement d'avoir finalement une musique improvisée, mais quand même qui tenait un peu la route, parce qu'il y avait les mêmes mélodies qui revenaient. Et disons, l'habileté du musicien consistait à transformer ces thèmes pour ne pas évidemment avoir quand même la même musique chaque fois que le même personnage apparaît, mais la même musique transformée selon justement l'humeur, selon la situation du personnage. Je ne sais pas si ça t'intéresse que je fasse un petit exemple.
Oui, volontiers.
Alors, il paraît qu'à l'époque, un des thèmes plus utilisés lorsqu'il y avait un assassin ou une tentative, disons, d'assassinat, était un thème de Beethoven. La sonate en fa mineur. Eh bien, ce thème, je l'ai aussi utilisé une fois pour le film qui s'appelle Aurore, c'est-à-dire Sunrise de Murnau, un des films les plus connus, parce que justement le personnage principal essaye d'assassiner sa femme, puis en fait au dernier moment il se ravise, il ne le fait plus, et il redevient bon. Alors ce thème, par exemple, on peut après le transformer en quelque chose. On voit très bien que ce qui compte pour cette interview, c'est bien l'improvisation, pour la seule raison que le piano n'était pas accordé, c'était pas prévu.
Tu dis qu'à l'époque, les pianistes improvisaient la musique au fur et à mesure, mais n'existe-t-il pas des partitions ?
Si, en fait, j'ai un peu simplifié. C'est un peu plus complexe que cela. À l'époque, il y avait des grands cinémas. Par exemple, le Gaumont à Paris avait 4000 places, c'est énorme. Alors, les grands cinémas avaient un orchestre carrément stable, un orchestre de 50-60 éléments, qui jouait en fait des partitions, forcément, parce qu'on peut un orchestre ne peut pas improviser. Alors, on jouait des partitions, c'était le chef d'orchestre qui faisait des collages, thème de Beethoven, comme je viens de faire. Ou alors, effectivement, il y avait une partie des films, mais c'était vraiment 1% maximum, des films qui avaient, comme aujourd'hui, prévu une colonne sonore. Qui avait, en fait, on engageait un musicien, un compositeur, pour écrire la musique du film, mais c'était vraiment plutôt l'exception. Alors, dans ces cas-là, effectivement, on jouait la partition qui était écrite. Il m'est arrivé de le faire une fois, un des films le plus connu en ce sens, c'est l'assassinat du duc de Guise, pour lequel, déjà à l'époque, on avait commandé la musique à Camille Saint-Saëns.
As-tu déjà été contacté par un éditeur de DVD pour enregistrer la musique d'un film muet fraîchement restauré ?
Oui, si on considère la Cinémathèque comme un éditeur de DVD, oui, parce que j'ai déjà enregistré justement la musique pour un film sur le Léman, un film de 1930, je ne me trompe pas, qui je pense devrait sortir en DVD, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit. Mais pour le faire, j'ai quand même improvisé, c'est-à-dire je n'ai pas écrit la musique, j'ai improvisé dessus comme à l'époque, et puis on a gardé la meilleure version en quelque sorte. Par contre, il existe aussi un autre DVD, qui s'appelle Le Dormeur, c'est un film de Richard Sottiori, qui a gagné d'ailleurs le Pardo, donc le deuxième prix à Locarno. Donc effectivement, il y a un court-métrage avec une improvisation à moi, d'ailleurs sur un thème de Chopin, qui est censé justement relier la musique. Le film dure 19 minutes, et puis voilà, donc en fait, pour l'instant, il existe un DVD avec ma musique et probablement un deuxième. Bientôt.
Alors, merci Enrico de bien avoir voulu répondre à ces quelques questions.
Avec plaisir.
Quand est-ce que nous pourrons t'écouter pour la prochaine fois ?
Alors, le 12 avril, c'est un mardi, à 18h30, à la Cinémathèque de Lausanne, c'est-à-dire au Casino de Montbenon. Il y aura un film qui s'appelle « Victime inconsciente », film de Hans Steinhoff, que je n'ai pas encore vu. Je viens de recevoir le DVD par la Cinémathèque. Je me réjouis.
Nous aussi. Merci.
Merci à vous. À bientôt. Merci à toi.
Et merci Stéphane. La suite de cette rencontre avec Enrico Camponovo, ce sera la semaine prochaine dans Cultiver Lausanne à 7h20. So that we can live. Floyd avec ce titre Dansant Groove Me sur Radio Django.
Radio Django, 18-19h.
Les mardis de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur, des coups de griffe, l'un n'empêche pas l'autre, il paraît, à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. Ce week-end, la collection de l'Art Brut fête ses 40 ans à l'Arsenic. Avant de s'y rendre, Stéphane nous parle de Besoin modeste, assiette plate, le monologue à deux voix monté par Abstral Compost autour des écrits de Samuel Ernst Daiber.
Mardi de Stéphane Venanzi.
À l'origine du monologue à deux voix Besoin modeste, assiette plate, que jouera, déclamera Abstral Compost dimanche 17 avril à l'Arsenic, dans le cadre d'un week-end dédié à l'art brut, il y a, bien évidemment, les lettres écrites par Samuel Ernst Daiber durant ses longues années d'enfermement en institution psychiatrique, missive que Michel Thévaux, premier directeur de la collection lausannoise, avait reprise en volume en 1979 dans son fameux Écrit brut. Mais il y a aussi, surtout, une galette de poésie sonore absolument décapante, enregistrée en août 2009 par le quartet Karst et titrée Samuel D. Galette que l'on peut d'ailleurs télécharger gratuitement, encore aujourd'hui, sur le site du netlabel Insub.
Il aurait fallu le réalisater. Palistater pour être, avoir, le seul, tout seul, qui m'ait renseigné de mon de mes états d'être d'avoir ces cires des bons pasteurs, évangéliquistes populaires. Et il m'a répondu, résultat, arclérisme, roi, arclérisme, roi, G-H-I-J-Y-P-C-D-L, miraclérisme, roi, A-S-S-P-X-F-R-P-G-W-W, en un mot, c'est algabétrique, algabétrinique, c'est sire des bombes, pasteur vieillard du temps de sa vieillesse qui m'a renseigné de mon éventre, aspire. Il me faut être seul. Tout seul, dans le silence du logement officiel, je refuse que seulement un ne soit pas chez lui. Il me faut tout payer, et lorsque j'aurai cru, pu réalistater, je payerai mes dettes en réalisateur. PS. Je ne veux pas que l'on m'orpheline.
Dommage qu'à partir de 2012, après une courte série de concerts et avant même la sortie l'année suivante du non moins essentiel album Corpusculaire Métrique, toujours publié par Insub mais avec la participation en plus de Vincent Barras, dommage donc que l'entité Karst semble avoir été mise en sommeil par ses agitateurs. Par chance, cela n'a toutefois pas empêché Abstral Compost, en novembre 2014 d'abord, majoritairement épaulé par de nouveaux complices, de présenter, directement dans les locaux de la collection de l'Art Brut, une autre version, plus longue et complètement basse, de Besoin modeste, assiette plate, et de nous revenir enfin ce dimanche, vraisemblablement seul mais dédoublé, dans une interprétation encore renouvelée de son spectacle. Un spectacle à vivre assurément. Quant au reste du programme, il comprend notamment la projection du documentaire Les cocons magiques de Judith Scott, une œuvre de Philippe Lespinas, réalisateur passionnant dont il faudra vraiment que je vous parle plus en détail un de ces jours. En attendant, à la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Six sujets au sommaire de ce grand direct. Nous parlions aujourd'hui du masculinisme, de la ferme pédagogique de Rovereia. Nous avions le portrait de Joël Conan. Nous avons également ouvert l'œil suisse avec notre chronique suisse Parle-moi Suisse. Nous avons rencontré Enrico Camponovo à l'instant et c'était les mardis de Stéphane Venanzi pour conclure cette émission. C'était tout ce que nous proposions d'excellent ce mardi 12 avril sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.com. radiodjongo.fm. La semaine prochaine, la suite de la rencontre d'Enrico Camponovo, et ce sera le début également du Festival de la Terre, l'occasion d'en parler sur Radio Django pendant 3 semaines. Mardi prochain, nous recevrons Dominique Bourg, président de ce Festival de la Terre. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct et en public de Pôle Sud, comme chaque semaine. Très belle suite de soirée à l'écoute de Radio Django. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.